Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet, bonjour à vous qui nous rejoignez à la télé, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest. Bonjour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 13. Et tout de suite, ceux qui connaissent leur Bible disent, ah, il va nous prêcher sur l'amour. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai, c'est Paul hein, qui parle, qui dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous pouvez vous asseoir. Qui est ce Paul? Paul, je dirais qu'il est le grand interprète du message de Jésus-Christ. Et beaucoup de théologiens, tout au long des siècles, ont dit que le message de Paul contredisait très souvent celui de Jésus-Christ. Alors quand on se trouve en face de ce qui peut ressembler, je dis bien, à une contradiction, je pense que le mieux, c'est de s'asseoir et d'attendre. Je vous ai parlé dernièrement de mes longues marches, qui se souvient de ça? C'est pas que je marche longtemps, mais je marche lentement. Et je vous ai enseigné ces choses, je vous ai dit pourquoi. Et lors d'une de ces marches lentes, eh bien, j'étais au bord des lacs Saint-Simon. Eh bien, je pensais, voilà, quand on se trouve devant quelque chose qui ressemble à une contradiction, il faut s'asseoir et attendre un petit peu comme ces pêcheurs, assis au bord de l'étang du château, des étangs du château Saint-Simon. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent du... Oh! Ils veulent du poisson. Et ils ne l'auront que si ils insistent. Parce que le temps est nécessaire pour parvenir à l'objectif. Le poisson, il faut du temps. Ce n'est pas parce que vous arrivez au bord de l'eau que le poisson dit « Ah, si, je vais... » Non, il faut du temps. Le temps nécessaire pour parvenir à l'objectif, le poisson, dépend de l'aide que Dieu leur accorde. Est-ce qu'ils en ont conscience? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Paul, il connaissait, bien sûr, très très bien la religion juive, puisqu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, il était un maître, il était un rabbi. Mais aussi, il connaissait les croyances grecques, les croyances romaines, un petit peu comme Moïse, si vous voulez, qui connaissait tous les secrets des croyances égyptiennes. Il avait été formé là-dedans. Et il connaissait, c'était des gens qui avaient de la connaissance. Alors, quand il parle de l'amour, il savait que Dieu est amour. Et que l'image de Dieu, Jésus est l'image de Dieu, il est Dieu fait chair, que l'image de Dieu, Jésus, est la plus grande manifestation de l'amour, de ce qu'est l'amour. Mais il savait aussi que tout homme et toute femme est à la poursuite de Eros. Eros, ce n'est pas un dieu juif, hein. Dieu de l'amour, l'amour. Or, il y a du bon et du mauvais dans Eros. On ne peut pas nier Eros, tout le monde court après. Tout le monde a besoin, je dirais même, de sa présence. Prenez deux jeunes gens qui s'aiment. Ils pensent que l'amour est une chose qui se développe. Ils sont attirés l'un vers l'autre. Et puis, ils s'unissent. Et puis, ils se mettent à lutter seuls dans la vie, fondent un foyer, ils partagent les mêmes aventures, et c'est ça qui rend Eros, l'amour, digne. ce qui permet la transformation d'Eros en Philéo. Lui, il va se lancer dans sa carrière professionnelle. Elle va être une excellente maîtresse de maison, je schématise, hein. Elle va, il ne faut pas penser que je suis macho, il y a des femmes qui travaillent aussi à l'extérieur, mais bon, je fais un plan, voilà. Elle va accompagner son mari, bon, avoir des enfants, et ils sentent qu'ils construisent quelque chose ensemble, et c'est ça le bon combat. Alors, même s'il y a des embûches, ils seront toujours heureux. Mais ça peut se dérouler autrement. Lui, il peut commencer à se sentir un peu moins libre, pas suffisamment libre. Et puis, elle peut commencer à prendre conscience que finalement, elle a sacrifié une carrière, une vie brillante pour suivre son mari. Alors, au lieu d'une création, eh bien, ça va devenir... Ils vont se sentir volés. Eros, qui les unit, va montrer peu à peu son mauvais aspect, le mauvais côté. Et puisque Dieu avait donné à l'homme et à la femme comme son plus noble sentiment, l'amour, eh bien ça va devenir une source de suspicion, de haine et de destruction. Personne ne peut échapper à Eros. Nous avons tous besoin, comme je disais, de sa présence. Et Paul le développe très bien. On voit sa culture grecque tout au long de ses écrits. Très bien. Les jeunes gens s'aiment Eros. Et quand Eros veut se transformer en philéo, c'est-à-dire en amitié, en complicité, eh bien, ils trouvent ça un peu... C'est décevant pour eux. C'est plus la passion comme il y avait au départ. C'est autre chose. Et puis, ils trouvent ça finalement un peu inutile, parce que des copains, des copines, des amis, ils peuvent en avoir ailleurs, sans avoir besoin de laver leurs chaussettes, sans avoir besoin... Et puis, ça finit par une cassure. Pourtant, c'est Philéo qui conduit à Agapé. Rappelez-vous, même dans la description de l'apôtre Pierre, l'amour ne peut pas être atteint s'il n'y a pas dessous la base de l'amour fraternel. Donc, il y a des différents degrés. Je vous ai toujours dit ça. Je le dis autrement ce matin, mais c'est toujours la même chose. Paul parle très bien de tout ça. Pierre aussi, tout le monde parle. Mais ce matin, on parle de Paul. Eros, c'est l'amour de base. C'est ce qui attire une personne vers une autre. Et ce n'est pas forcément le sexe. Parce que maintenant, on prend le mot Eros pour dire érotique, etc. Et puis, on est fixé là-dessus. Mais c'est ce qui l'intéresse. Vous avez des attirances intellectuelles, des attirances de toutes sortes, morales, de toutes sortes, ce qui donne envie d'être vers une personne, d'être avec cette personne, d'être tout près de cette personne, et pas seulement physiquement. Et puis Philéo, ça c'est l'éros qui devient amitié, complicité, c'est plus profond. Et puis Agapé, ça c'est l'amour qui dévore. Quand Jésus a parlé d'aimer nos ennemis, il a parlé d'agapé, parce que c'est impossible d'aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous rabaissent, avec l'amour éros ou avec l'amour philéo. Vous comprenez ? Paul le développe très bien. Agapé est beaucoup plus, beaucoup plus. C'est un sentiment qui envahit tout, qui transforme en poussière toutes les tentatives d'agression, ça ne devient plus rien. On souffle dessus, on passe. C'est pourquoi, quand Paul nous parle de l'amour, là, il nous parle de l'amour agapé. Il supporte tout, il accepte tout, il croit tout. C'est un amour fou. Jésus nous parle de naître de nouveau. Alors, ça nous est tous arrivé ici, de naître de nouveau. Ensuite, on a dû apprendre à ne pas être cruel envers nous, à croire dans l'amour de Dieu, dans son pardon, malgré nos imperfections et toutes ces choses. Et puis, nous avons dû apprendre à prier. Nous avons dû apprendre à converser avec Dieu. Hein? Mais tout ce que nous apprenons n'a de sens en fait que si on est touché par l'amour qui nous dévore. L'amour qui dévore fait perdre à tout, à absolument tout, son importance. Il n'y a plus rien d'important. On se sait dans les mains de Dieu, on se sait aimé de Dieu, on se sait protégé de Dieu, même dans des situations épouvantables, comme l'apôtre Paul qui se trouve en prison à deux doigts d'être condamné à mort. Je ne veux pas dire que ça n'a pas d'importance du tout, mais pour lui, ce qui est important, c'est de mener le bon combat de l'amour, de la foi, de l'espérance, un tout. Mais là encore, il y a deux formes d'agapé. Il y a deux formes. Et voilà pourquoi on a besoin de Jésus et de Paul. Et puis des fois, ça semble se contredire, c'est parce qu'on n'a pas attendu assez longtemps pour que le poisson vienne. C'est-à-dire que ce qu'on cherche arrive. Alors on se montre des idées. Ce matin, je voudrais vous parler d'une des deux formes d'agapé. L'enthousiasme. Je vous ai toujours dit que le mot enthousiasme signifie transport divin. Je vous ai dit ça parce que je pensais que vous n'étiez peut-être pas assez fort pour entendre la véritable signification du mot enthousiasme. Je voulais vous parler en termes religieux, chrétiennement, évangéliquement correct. Mais le mot enthousiasme, c'est pas un mot chrétien, bien qu'il se trouve, on peut le trouver, n'est-ce pas, dans la Bible. Mais c'est un mot. C'est un mot. Et ce mot, chez les Grecs, il signifiait trans. Il signifiait ravissement. Il signifiait relation à la divinité. L'enthousiasme, c'est agapé. Quand nous aimons, quand nous croyons du fond de notre être, de notre âme, en quelque chose, on se sent fort, plus fort que tout le monde. Et tout devient poussière autour de nous, ça ne nous intéresse plus. Et nous sommes pris d'une sérénité qui provient de la certitude que rien ne pourra vaincre notre foi. C'est magnifique. Cette force étrange, parce que l'amour c'est étrange, cette force étrange nous fait prendre toujours les bonnes décisions. Alors, moi, elle va me faire prendre une décision, vous, elle va vous en faire prendre une autre. Mais si c'est vraiment l'amour qui vous conduit, mais c'est bien. Et lorsque nous atteignons notre objectif, et moi, ça m'est arrivé très souvent d'atteindre mes objectifs, je suis surpris, après, en regardant, d'avoir été capable d'atteindre cet objectif. Je me dis, c'est génial ce que j'ai fait, c'est super. Mais c'était parce que j'étais transporté par Dieu, parce que j'étais dans ce transport divin, parce que j'étais en transe en quelque sorte. C'est-à-dire que j'étais, il n'y avait que Dieu, il n'y avait que le projet qu'il m'avait montré, il n'y avait que ça qui m'intéressait, tout le reste. Bon, ben, ma foi, comme disait Lafayette, qui même me suivent. Et on est tous comme ça, à moins de dormir, je ne sais pas moi, ou de se raconter des histoires. Nous avons été transportés par Dieu, nous avons utilisé les transports divins, non pas les transports en commun. Ouais, encore hier, on était dans le métro avec la Michou. Enfin, encore l'hiver, ça va, parce que ça sent pas trop les odeurs. Alors, tout au long de notre combat de la foi, rien n'a plus d'importance. On est porté par l'enthousiasme jusqu'au bout. Alléluia, on est fort. Regardez les gamins, regardez les enfants. Les enfants, ils manifestent cette part d'agapé. Ils sont encore très liés au divin, les enfants. Très liés au divin. Ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté le monde des esprits. Et ils s'attachent si fort à ce qu'ils aiment, à leurs jouets, par exemple, eh ben que leurs poupées, elles prennent vie, leurs poupées. Hein, leurs soldats de plomb, ils marchent. Puis on les voit, ils sont tout enthousiastes avec ces petits bouts de machin. Hier, on est allé acheter un quoi ? Un pchikatou ? Je ne sais même pas ce que c'est, un machin jaune. J'ai dit, mais il va jouer avec ça deux jours. Oh non, 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 détrompe-toi. Ça, c'est génial, ça va passer des heures là-dessus. Ah bon ? Le Pikachu, je crois, c'est ça, hein ? Je ne sais pas. Vous voyez, quand Jésus dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants, il faisait allusion à l'agapé sous la forme de l'enthousiasme. Les enthousiasmes. Les gamins sont venus vers Jésus, mais je vous assure qu'ils n'étaient pas intéressés par les miracles. Ils n'étaient pas intéressés par sa sagesse. Les gamins, ils venaient heureux, ils étaient mus par l'enthousiasme. Maintenant, lors de mes lentes promenades, j'observais des pêcheurs sur l'étang Saint-Simon et j'ai vu qu'il y en a deux sortes. Bon, toujours, on voit ça partout, hein. Et à ceux qui ont perdu leur enthousiasme parce qu'ils n'ont rien attrapé, alors ils plient bagages en ronchonnant, puis ils s'en vont. Vous voyez ? Ce sont tous ces gens qui avaient un rêve, et puis parce que c'est un peu long, ou parce que c'est difficile, ou parce que je ne sais pas quoi, enfin bon, peu importe, ils bâchent, ils plient bagages. Ils perdent leur enthousiasme premier à cause des petites défaites répétées. Et pourtant, elles sont nécessaires, ces petites défaites. Elles sont toujours nécessaires. Ils ignorent une chose que je voudrais vous enseigner ce matin, avant qu'il soit trop tard. Les gens, même les chrétiens, ignorent ces choses parce qu'ils ne font pas attention aux fameuses, entre guillemets, contradictions apparentes entre le message de Jésus et le message de Paul. D'abord, ils lisent l'évangile, puis après, puis le lendemain, ils vont lire Paul, puis ils font pas. Ils n'essayent pas d'avoir une chaîne de référence et puis de comparer. Ils n'étudient pas, ils lisent. Voilà. Ça, c'est dommage. Il faut étudier, il ne faut pas seulement lire. Jésus dit, par exemple, « Tout est possible à celui qui croit. » Chiche, marche au plafond. Tu crois que tout est possible, Rebecca? Mais pourquoi tu ne marches pas au plafond? Tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Ah, ben ça, c'est Paul, justement. Tiens, voilà, c'est Paul. Paul, il explique que l'enthousiasme, c'est la force supérieure qui est tournée vers la victoire finale, qu'il y a un combat de la foi. Il dit que c'est un combat, qu'il faut prendre des armes. C'est pas simplement tout est possible parce que lui qui croit. Hein? Il ne s'agit pas juste de croire. Il s'agit souvent de passer par toutes sortes d'échecs. Ah, autre chose. Et comme les gens ignorent que l'enthousiasme est la force supérieure qui est tournée vers la victoire finale, eh bien, ils laissent l'enthousiasme filer entre leurs doigts sans remarquer qu'ils laissent échapper aussi le sens véritable de leur propre vie. Alors, déçus, ils rendent le monde coupable. C'est pas eux, hein? Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est le poisson qui n'a pas voulu mordre. C'est l'eau qui était trop froide. Ou trop chaude. Enfin, il y a toujours un responsable. Ils oublient que c'est eux qui ont laissé échapper la force captivante qui explique tout, l'enthousiasme. La manifestation de l'amour agapé sous forme d'enthousiasme. Est-ce que vous avez perdu votre enthousiasme? Est-ce que vous êtes mou dans vos désirs de servir Dieu? Vous êtes hésitant? L'enthousiasme, c'est une des deux parties de l'amour agapé. L'enthousiasme me porte depuis le 1er juin 1968, le jour où je me suis converti, que Raphaël Duval a prêché l'évangile. Et là, nous arrivons à la fin de cette année 2014, qui n'a pas été simple pour aucun de nous. Ça n'a jamais, ça n'a pas été simple du tout. Pour Michou et moi, ça a été très difficile. Et ce matin, à 2h06, c'était la prière du solstice d'hiver. Vous savez, nous fermons les portes sur nos ennemis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les portes infernales. Elles ont été fermées, des ennemis ont été repoussés derrière ces portes. Et vous me connaissez, vous qui venez ici, vous qui m'écoutez, vous savez que je suis un croyant dispensationaliste, c'est-à-dire je crois qu'il y a des dispensations, la dispensation de l'innocence, enfin je vais plus vite, hein, de la loi, de la grâce, et dans la grâce il y a cet âge de l'Église, ça c'est des dispensations. Je crois que tout est bien en ordre et je crois qu'il y a des cycles en toutes choses, comme les saisons, les jours, les mois, les semaines, tout tourne, tout ici-bas tourne, il y a des cycles. Et 2015, c'est une année très importante, car elle est le jubilé du départ du septième ange d'Apocalypse 3, c'est-à-dire du départ de notre prophète William Branham pour la patrie céleste. C'est le jubilé, c'est 50 ans. Et si depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup commencer à écrire dans un cahier tout neuf, j'aime aussi arriver à la fin d'un cahier pour en ouvrir un autre tout neuf, hein, pas pour simplement le plaisir d'arriver à la fin d'un cahier, mais pour en ouvrir un autre tout neuf. Et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui, que je ne vous parlerai pas de ça après. Enfin, si, on pourra en parler encore après, mais je veux dire, c'est aujourd'hui que je vais en parler parce que c'est le jour du solstice, c'est le jour où les portes ont été fermées, c'est le jour où on a nettoyé les choses spirituellement. C'est pourquoi je parle aujourd'hui C'est la fin de l'année. C'est le jour du solstice. Et je n'attendrai pas 2015 pour vous dire ces choses. Alors, je trouve que c'est dommage que Philippe, Marie-Claire, Franck, Alain, Catherine ne sont pas là. Il y a encore d'autres qui manquent. Je sais pas, j'ai pas fait attention dans cette foule immense. C'est dommage qu'ils ne sont pas là, mais enfin, de toute façon, ils écouteront ça sur le net. Mais au mois de juin, Richie nous a donné une prophétie sur la communauté, un réveil qui doit arriver au château. Cette prophétie, elle est en accord avec la prophétie de la sœur Jane Ramsey, qui dit qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Et je crois dans cette prophétie, comme dans toutes les prophéties, il y a des choses que je crois, puis d'autres, moi je trie, hein, comme la Bible dit, prends ce qu'il y a de bon, laisse ce qu'il y a de mauvais, il faut trier. Mais il n'y a pas des choses mauvaises, il y a des choses, bon, voilà. Mais c'est dans toute prophétie, hein, à part celles qui sont dans la Bible, il faut toujours trier. La Bible dit aucune prophétie est parfaite. Donc, mais moi je crois qu'il va y avoir un réveil au château sanctuaire à Lamblore. Et beaucoup de choses vont arriver, des milliers de gens au portail, des anges qui entourent le château et toutes ces choses-là. Et beaucoup d'autres choses encore. Et une bonne partie de la communauté est enthousiaste à ce sujet. Mais moi, je me sens vieux. Je me sens vieux, il y a 30 ans qu'Alain Mesme est mon second. 30 ans, on est con, que vous avez rencontré Alain Mesme à la Grange. C'est fou, hein? J'ai retrouvé les 3 pièces d'or qu'il m'avait données en rentrant à la communauté. Ça fait 30 ans qu'il me seconde dans le ministère et désormais, il ne sera plus mon second. Il sera votre pasteur du château sanctuaire. Je passe le flambeau. Je donne la main. Alain est votre pasteur, le pasteur du château sanctuaire. Moi, j'estime que voilà, là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le Seigneur me conduit autre chose, pour autre chose. Michou et moi, nous allons donc partir, pas demain, mais durant l'année 2015, nous allons partir pour ouvrir une autre communauté. Alors, vous allez me voir encore, hein, si vous ne m'aimez pas, vous n'avez pas fini de me voir, parce que je vais rester encore quelques mois. Et tant que nous serons là, je prêcherai ici en tant que second de votre pasteur Alain Mesme. Petit à petit, je vous tiendrai au courant des changements, des choses qui vont arriver. Et puis, j'espère assister au réveil ici. Mais je me retirerai. Je vous laisse place aux jeunes. Je me retire. J'ai apporté ce que j'avais apporté. Voilà. Et je vais donc consacrer ma vie avec la Michou et avec ceux qui s'enthousiasment pour mon départ. On va commencer quelque chose de nouveau. Alors, je voudrais ce matin dire merci à chacun d'entre vous pour toutes ces années qu'on a passées ensemble. On a ri, on a pleuré, on a bien mangé, on a bien bu. Ça s'est très bien passé pour la majorité des choses. Il y a eu des moments difficiles. Je n'ai pas été toujours rigolo, vous non plus, mais on s'aime toujours. Et il y a toujours donc cette passion pour l'œuvre de Dieu. Et je suis fier, je suis content de voir que Alain du départ maintenant passe le pasteur de la communauté. Alors merci pour toutes ces années passées avec vous. Je vous demande que vous priez pour nous. Tiens Michou, viens devant. Viens devant. Voilà, ça c'est ma chérie du début. C'est elle là, qui a été fidèle la plus longtemps, puisque c'est depuis 1972 qu'on est fiancés. Puis ensuite on s'est mariés en 1974, parce qu'à l'époque les fiançailles c'était long. Puis il n'était pas question de... Non, on a attendu le mariage. Hein. Donc voilà ma chérie, ça fait tant d'années que tu étais fidèle, que tu m'as supporté, que tu as fait, que tu as, je suis ému là, que tu as accepté toutes mes folies, que tu as cru dans ce que le Seigneur me donnait, que tu t'es sacrifié, que tu as, c'est vrai, tu as
avec
plutôt...
Avec joie, avec enthousiasme.
Avec joie.
Avec enthousiasme.
Avec enthousiasme. Alors je te fais un gros bisou. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous avez devant vous l'ancien pasteur du château sanctuaire. Que Dieu vous bénisse. Nous passons le flambeau Nous allons parler cet après-midi au château encore, et puis, parce que vous doutez bien qu'on a déjà parlé entre nous, et puis on va parler encore après, le samedi avec les messes, mais on va mettre au point les choses administratives, parce qu'il y a aussi des choses administratives, il n'y a pas que le spirituel, et puis flap, il faut aussi aller les pieds sur la terre. Donc on va parler de tout ça, et puis quand on sera bien établi dans la prochaine communauté, on vous invitera tous à manger la fondue. J'espère que vous aimez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais demander à mon frère Stéphane de venir devant et puis de prier pour nous et de nous bénir pour cette nouvelle année qui va commencer et cette nouvelle aventure que nous allons vivre.
Eh bien, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur, pour ces instants qui sont précieux, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette nouvelle année. Pour ce projet, Seigneur, que nous avons à cœur. Merci, Jésus, pour tout ce qu'il va se passer, parce que je sais que tout est entre tes mains, Seigneur. J'ai confiance, Seigneur, dans le plan merveilleux, Seigneur, que tu nous as confié. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu vas nous conduire, Seigneur, et tu vas nous donner, même au-delà, Seigneur, de ce que nous espérons, Seigneur. Merci, Jésus, pour cela, Seigneur. Amen.
Amen. Merci Stéphane, Dieu te bénisse. Et puis on n'est pas triste, on va chanter. On va chanter, merci. Dieu vous bénisse.